C'est-à-dire ce qu'il en arrive à la fin de cette rivalité qui s'est accrochée dans les deux versets que nous avons étudiés. Alors, vous allez prendre le chapitre 25, est-ce que c'est 25 ou 28, une minute. C'est le chapitre 25, oui. À partir du verset 7. Alors, nous nous situons dans ce moment du récit, à la fin de l'histoire d'Abraham. Alors, je vais vous lire tous les versets jusqu'à la fin du chapitre, en vous indiquant au passage, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, les points précis que nous étudierons avec Rashi, et d'abord le sujet général. C'est-à-dire, ici, il y a une description des circonstances de la réconciliation éventuelle entre Ishmaël et Israël. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va s'extraire de l'actualité et c'est une prospective dans l'étude du récit. Et voici, verset 7, « Et voici les jours des années de vie d'Abraham qu'il a vécu, 175 ans. » Verset 8, suivez bien les termes, « Vaigvar, il expira, Vayamot, il mourut, Abraham. » Alors, on dit « expirer » lorsque le corps a vécu tout le temps de sa vie biologique jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort brusque du point de vue de la mort biologique du corps. Vaigvar, il expira. Vayamot, il mourut, séparation entre l'âme et le corps, Abraham. Besevatova, en bonne vieillesse. Et la première question que le Midrash va poser, c'est comment peut-on dire qu'Abraham est mort en bonne vieillesse alors qu'il y a une telle querelle dans ses descendances? C'est clair? Zaken, âgé, Vesavea, rassasié, sous-entendu de jour, Vaya Sefel Amav, il fut adjoint à son peuple, c'est une expression biblique que je n'aurai pas le temps d'étudier maintenant, qui indique qu'il a rejoint son peuple dans l'autre monde, le monde des âmes. Verset 9. Vaïkberu Oto et l'enterrer, suivez bien, Yitzhak ve Ishmael Banav, Isaac et Ishmael ses fils. Cela implique donc qu'Ishmael est revenu de l'Égypte, suivant le contexte midrashique, est revenu à l'endroit de cet enterrement qui est la caverne de Marpella, donc Hebron, où était Isaac. El Meharat à Marpella, à l'endroit de la caverne de Marpella, Elzé Ephron, au champ de Ephron, Ben Sohar, fils de Sohar, Achiti le Chitéen, Asher Alpene Mamré, qui se trouve à côté de Mamré. Verset 10, Asadé Asher Kana Abraham, le champ qu'avait acquis Abraham, Mehet Ben Echet, de la part des enfants de Chet, Shama, Lama, Kubar, Shaba, Shama, là-bas, Kubar fut enterré, Abraham, Vesara, Ishto, Abraham et Sarah, sa femme. Verset 11, Vaïhi, et il arriva à Haré Mont Abraham, après la mort d'Abraham, Vaïbarech Elohim et Yitzhak Beno, Dieu bénit Isaac son fils, Vaïchev Yitzhak et Isaac résida Imber la Hairoï, à l'endroit du puits qui se trouve, qui s'appelle le puits la Hairoï. Je ne traduis pas, ça nous renvoie à un épisode précédent. Verset 12. Vele Toldot Ishmael ben Abraham, et voici les engendrements d'Ishmael, fils d'Abraham. Vous voyez, Ishmael, fils d'Abraham. Notez, et non pas fils d'Abraham. Asher Yalda Hagar Amitrit, qu'avait enfanté Hagar l'Égyptienne. Vous voyez que la formule a changé. Shifrat Sarah, servante de Sarah, les Abraham à Abraham. Veleshmot ben Ishmael, et voici les noms des enfants d'Ishmael. Bishmotam selon leur nom, les Toledotam selon leurs engendrements. Bechor Ishmael Nevayot, l'aîné d'Ishmael s'appelle Nevayot, Vekedar Vadveel ou Mipsam, Mishmar Veduma ou Massa, Hadad Tema Yatur Nafish Vekidma, les noms des 12 tribus d'Ishmael. Elehem Bene Ishmael, ce sont ceux-là les fils d'Ishmael, Velech Motam, et leur nom, Behasreem, selon leur cour, Tirotam, selon leur palais, on dirait leur maison royale, Shnem Asar Nesim Neimotam, 12 princes, pour leur mère, selon les peuplades dans le sens de descendants de la mère. Verset 17. Vele shene chaye Ishmael. Et voici les années de la vie d'Ishmael. מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים, 177 ans, ויגבר, il expira, ויאמות, il mourut, ויאסף אל עמיו, il rejoint son peuple. Prenez Rashi sur ce verset. Alors Rashi, sur le verset 17, la fin de Rashi sur le verset 17, sur le mot de Vaïgva, il expira. Je lis, Lo neemra gvia. Le texte n'emploie le terme de gvia, l'expiration, dans le sens d'expirer, ken, et la betzadikim, que pour les justes. Voilà, Rashi nous cite un midrash nous disant que le fait que le texte de la Torah, au moment de la mort d'Ishmaël, dit Vaïgva, il expira, ça indique qu'Ishmaël était un tzadik, était un juste. Premier étonnement, on nous raconte l'histoire d'un rachat, et à la fin on nous dit qu'il est mort en juste. Okay. Deuxième étonnement, Rashi n'a pas l'habitude d'expliquer un mot qui a été expliqué, sinon la première fois on le rencontre dans le texte. Or ce mot de Vaïgvar avait été dit au verset 8 pour Abraham. Et voilà que Rashi attend qu'il soit employé pour Ishmaël pour nous donner l'explication selon laquelle on emploie le mot de Vaïgvar, Gevia, le fait d'avoir vécu tous les jours que l'on avait à vivre dans la vie, c'est le signe qu'il s'agit d'un tzaddik. C'est clair ? Il attend Ishmaël pour le dire. C'est donc pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez donc déjà l'expression, j'appellerais ça un domino de lecture, Ishmaël tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons, avant d'aller plus loin, revenons au midrash qu'on a lu tout à l'heure. Ishmaël tzaddik, ça veut dire que non seulement il est dans la maison de son père, mais qu'il ne rit plus du rire de rivalité par rapport à Yitzhak. Qu'il a fait tchouva par rapport à son père, ça c'est déjà l'islam, quand l'islam réussit. Mais qu'il a fait tchouva par rapport à Yitzhak. C'est clair ? Alors il est appelé tzaddik. Vous avez compris jusque-là ? Donc.
Vous avez dit, le fait de vivre tous ces jours, mais alors, il y a des rachats qui vivent jusqu'au bout, mais il y a des justes qui ont une mort brutale. Alors, ça voudrait dire que la mort brutale est
Disons, c'est un autre problème. Okay? Parce qu'il prenait trop de temps pour en parler, c'est pas que la question ne se pose pas, mais c'est un autre problème. S'il nous reste du temps, j'y reviendrai. Okay? Simplement, la notion qu'il a est d'abord une notion de vocabulaire. Je ne sais même pas si le mot de expirer que je vous ai choisi pour traduire Vaïgvar traduit très exactement. Mais je vous donne l'idée. C'est-à-dire, le corps a fini de fonctionner. Sa programmation de vie s'est achevée. Et c'est l'indice qu'il s'agit d'un sadique. Bon. Alors, je reprends donc le verset 8. Et nous allons voir Rashi sur le verset 8. Vous vous rappelez de la question que nous étions posées sur le verset 8. Comment Abraham peut mourir en bonne vieillesse alors qu'il y a ce drame dans sa descendance ? Alors, prenez Rashi sur le verset 9. Yitzhak ve Ishmael. Et l'enterrèrent Yitzhak et Ishmael. Rashi cite le Midrash Rabba, qui met en évidence que le texte porte Yitzhak avant Ishmael. Est-ce que c'est clair ? Et voilà ce que le Midrash en apprend, et on va raisonner par la suite. Mikan, chez Asa Ishmael Tshuva, de là on apprend qu'Ishmael s'est repenti. Veholich et Yitzhak lefanav, fait marcher Yitzhak devant lui, c'est-à-dire admet la préséance des Yitzhak, vehi sevatova, shenemra be'Abraham, et c'est cela la bonne vieillesse qui est dite à propos d'Abraham. Ça veut dire qu'à la fin de sa vie, Ishmael accepte de venir à Hebron chez Yitzhak pour l'enterrement d'Abraham. Et c'est indiqué dans le texte, et l'enterrèrent Ishmael, c'est-à-dire Yitzhak. Et Ishmael, c'est le signe qu'Ishmael a reconnu la préséance de Yitzhak. C'est clair ? Bon. Et alors, je reprends l'analyse, elle est maintenant très, très simple à schématiser. On a déjà eu un premier enseignement. Il arrivera que Ishmael rentrera dans la maison de son père, c'est-à-dire abandonnera les conduites du rire au présent. Vous vous souvenez ? Top. Mais il lui restera le rire, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, la compétition de l'héritage par rapport à Yitzhak. Et voilà qu'à la fin de sa vie, la Torah nous dévoile, nous révèle, que Ishmael vient à Hebron en reconnaissant que c'est Yitzhak qui est chez lui à Hebron. Alors on l'appelle tzaddik. Est-ce que c'est clair ? C'est assez frappant, comme dans le raccourci même du récit. Tout ce que je peux vous indiquer du point de vue du diagnostic de la réalité historique, c'est que ça se passe à Hébron, d'après le texte. Or, Hébron est le seul endroit où il y a à côté une ville juive. Il n'y a pas à Shrem, il n'y a pas à Jéricho, il n'y a pas ailleurs. Et alors la stratégie des gouvernements d'Israël qui ont construit une ville à côté de Jéricho est assez impressionnante dans ce rapport au texte, étant donné qu'il s'agissait de gouvernements qui n'étaient pas du tout de droite. C'est les gouvernements de gauche qui ont construit Kiryat Arba, je ne sais pas si vous savez. Bon, il y a une espèce, encore une fois, de court-circuit entre l'histoire et le texte. On ne sait pas de quoi il faut le plus s'étonner, de ce que l'histoire s'entête à donner raison au texte, de ce que le texte éclaire tellement l'histoire. Les deux, je suppose, probablement. Enfin, ce sont des choses qui nous dépassent. Alors, rêvons, si vous voulez. Si un jour ça se dénoue, cette teshuva d'Ishmaël par rapport à Yitzhak, ça se passerait à Hébron, et c'est la fin du cycle d'Abraham. Ce serait la réconciliation entre Ishmaël et Yitzhak, et la suite du récit nous montre qu'ensuite Ishmaël disparaît. Vous avez le verset 18 que je n'ai pas encore lu. Vaishkenu mechavila à Chour, ils s'installèrent, les descendants d'Ishmaël, de Chavila jusqu'à Chour. Chour, c'est la Syrie, A2SY, Asher Alpene Mitzrayim, qui se trouve face à l'Égypte, Boacha Ashura, sur le chemin de la Syrie, Ashur, Alpene Kolehav Nafal, il est tombé à la face de tous ses frères. Ce sont ces versets difficiles à diagnostiquer, mais le texte est clair, c'est que le cycle d'Abraham s'achève dans la réconciliation entre Ishmaël et Yitzhak, et Ishmaël disparaît, et après commence l'histoire des engendrements d'Yitzhak. Bien, voilà le texte que je voulais vous citer, si vous nous permettez d'avoir quand même quelques minutes. Vous savez, il y a une tradition musulmane que je vous raconte en anecdote. Lorsque les Américains sont arrivés sur la Lune, les journalistes ont posé une question au recteur de l'université d'Al-Aqsa au Caire, puisqu'il y a un enseignement du Coran que l'islam ne disparaîtra pas plus que les hommes n'arriveront sur la Lune. Et alors, comme les hommes sont arrivés sur la Lune, il y a un journaliste insidieux qui a posé une question, ben voilà, les hommes sont arrivés sur la Lune. J'ai lu ça dans les journaux israéliens parce que le journaliste était israélien. Et alors, le recteur de l'université lui a répondu, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. C'est comme si c'était dit, tant que quand les poules auront des dents. Et alors le journaliste a répondu, mais sur le drapeau de l'islam, il n'y a pas une poule, il y a une lune. Enfin, il y a une tradition que le temps de l'islam, c'est 14 siècles, nous sommes à la fin du 14e siècle de l'islam. Donc, aucun rapport avec ce qui se passe dans la réalité, c'est bien entendu que des coïncidences. Mais c'est étonnant, ces choses-là. Et je crois que le monde de l'islam est en plein bouleversement, comme vous le savez. Il est sorti dans des convulsions terribles. Il est sorti de cette mentalité de la fatalité historique. Il accède à la souveraineté politique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et il y a une tension dans l'identité du monde de l'islam entre l'assomption de la vie politique et l'islam en tant que tradition religieuse qui est indéniable et qui pose des problèmes à la conscience musulmane. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'islam? J'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes au 14e siècle selon le conte de l'Égire. Et en ce moment-là, les juifs reviennent 2000 ans après Jérusalem et ça fait des problèmes. C'est ce qu'il faut percevoir. 2000 ans après. Bien.
Dans le récit, c'est après la mort d'Abraham, puisque c'est à l'enterrement qu'il y a réconciliation.
Non, ça veut dire que Ishmaël a été déjà réconcilié, puisque quand il apprend qu'on va enterrer Abraham à la caverne de Marpella, il vient chez Isaac.
Parce que ça a quand même une importance. Des fois, on a vu des femmes qui se réconcilier une fois qu'un parent est mort.
Oui, là c'est avant.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de révolu.
Oui, je comprends. Oui, ça voudrait dire peut-être, je ne sais pas si j'interprète exactement votre question, que en réalité les parents n'étaient pas en conflit entre eux, mais avec le parent en question. Alors une fois disparu, ils se réconcilient. Mais
ça. Non,
vous ne pensiez pas à ça. Bon,
j'avais pensé une fois que enfin, je pense justement à l'histoire actuelle. Enfin, Abraham, disons, enfin, une fois qu'il est mort, enfin, c'est-à-dire une fois qu'une ère s'achève, c'est-à-dire enfin, une nouvelle ère qui vient devant nous,
oui.
Alors les Arabes seront obligés de. Mais parce que ça sera là, ça sera. Évidemment même. Que les temps. Presque le ciel sera sur leur tête pour qu'ils reconnaissent.
On pourrait dire les deux choses à la fois. Si vous reprenez l'histoire des 50, 100 dernières années, eh bien, le monde arabe était prêt à l'époque à admettre l'existence d'un Israël juif. Et puis c'est les intérêts des grandes puissances, premièrement l'Angleterre, qui ont tout compliqué, disons. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a eu des pourparlers avant l'existence de l'État d'Israël, où il était, semble-t-il, assuré, c'est ce qui a permis aux leaders du mouvement sioniste avant l'État d'Israël de penser à un État, que le monde de l'islam non seulement acceptait l'existence d'une Palestine juive, entre guillemets, mais s'en réjouissait comme un ferment de fécondation pour eux-mêmes. Et puis ça tournait court, les Anglais étant les Anglais. Bien.
Est-ce que la réconciliation d'Ismaël n'est pas aussi l'œuvre d'Abraham lui-même, puisque le Sefer Yasha raconte qu'il y a eu deux visites d'Abraham à Ismaël, et qu'une fois il a été mal reçu par sa famille.
Oui, je voulais dire d'ailleurs, à propos de cette question, que le Midrash explique que c'est d'abord Agar qui fait Tshuva. Et Abraham la reprend comme femme, et elle est nommée Ktura dans le texte. Et la tshuva de Agar mène la tshuva d'Ishmaël. C'est-à-dire c'est l'Égypte qui fait d'abord tshuva. Est-ce que ça a commencé avec ce qui date déjà? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les autres enfants d'Abraham, je veux dire, pour nous, la descendance d'Abraham par. Les autres enfants d'Abraham par Ktura. Oui, et en particulier Midian, une question m'avait été posée là-dessus. Ce sont des peuples qui ne sont pas Ishmaël et qui ne sont pas Israël et qui se sont cependant abramides. Abramiques, si vous voulez. Et en particulier le peuple de Midian, qui joue un très grand rôle dans le récit biblique. Et vous savez que les Druzes, en particulier, sont une secte musulmane, mais bien à part, et reconnaissent comme prophète Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, le grand prêtre de Midian, le fait qu'il y ait entre les Druzes et les Juifs en Israël des liens de nature différente qu'avec les Arabes, j'en dis pas plus parce que c'est fluctuant et aussi hautement significatif. Parce que les Druzes du Golan, dès le début, n'ont pas accepté la souveraineté israélienne, ils se considéraient comme Syriens. De souveraineté politique, oui. Vous savez, nous allons un peu récapituler tout cela. Je vous dirai quelques mots du prochain séminaire. S'il y a encore une question sur le sujet, oui.
Que dire de cette réalité historique qui sert un peu de faire de la loi à la violence refoulée d'Israël?
À la violence
refoulée
d'Israël. Je ne comprends pas très bien votre question par rapport au sujet.
Ce que le peuple arabe est en train de montrer aujourd'hui, il fait valoir une facette.
C'est-à-dire, bon, moi je ne voulais pas parler de cet aspect des événements, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Est-ce que les textes disent quelque chose?
Ce sont des textes postérieurs, mais, et même disons antérieurs. Le fond du problème, je le dirais simplement en une phrase, le fond du problème c'est cette question de l'héritage. Je crois qu'il faut être lucide et sérieux. Lorsqu'on emploie des formules comme deux peuples pour une patrie ou deux peuples pour une terre, ça n'a pas d'issue, ça n'a pas de sens, etc. Je crois que cette violence apparente, vous avez dit refoulée, dont les médias se servent pour décrire les comportements d'Israël, eh bien, vient de notre faiblesse. Elle était indéniable au niveau des événements, des comportements, okay, mais le fait qu'on en soit arrivé là est venu de notre faiblesse, c'est-à-dire de notre faiblesse de dire la vérité. Il y a une espèce d'optimisme juif qui est parfois extrêmement dangereux. Je me rappellerai toujours de cette phrase de Manès Perver que j'ai citée à la première conférence. Nous sommes victimes de notre capacité d'espérance. Alors on a espéré pendant 40 ans à une coexistence, ceux qui l'ont espéré. Il se dévoile que cela n'est pas possible. Mais où était la faiblesse? N'avoir pas su dire la vérité. que où cette terre est la terre d'Israël, et les Arabes sont des étrangers, même s'ils sont là depuis 400 ans. Et alors, comme nous ne sommes pas des goyim, mais que nous sommes des juifs, il faut trouver les chemins de coexistence, mais dans une vision claire. C'est la terre d'Israël, il y a des étrangers. Les réactions des différents partis israéliens, à partir de là, seraient des réactions politiques, chacune cohérente. Nous ne voulons pas vivre avec des étrangers, donc cédons encore la moitié du territoire pour ne pas vivre avec des étrangers. C'est nous voulons vivre sur notre terre, c'est aux étrangers à décider s'ils veulent vivre avec nous ou pas, c'est une autre forme politique. Mais on n'a jamais dit aux Arabes, jamais osé dire aux Arabes, le fond du problème, c'est cela, ce pays est-il le pays d'Israël ou un pays arabe? Pour eux, c'est un pays arabe, un point. Pour nous, c'est le pays d'Israël. C'est pourquoi, à partir du moment où on a une impasse de cet ordre, alors ça déclenche des événements qui sont aussi d'ordre de la violence. Je crois que ça n'a aucun sens de nier la violence de l'armée israélienne, mais quel est l'objet de cette violence? C'est une violence d'agressé, et non pas d'agresseur. C'est une violence, indéniablement. Et on aurait pu en faire l'économie si nous avions été courageux d'être francs. C'est-à-dire, il y a ici un mythe qui s'est défait, et c'est très douloureux d'ailleurs. Je ne fais pas partie des gens qui croyaient à ce mythe. Mais enfin, objectivement, il faut dire que c'est très douloureux pour ceux qui y croyaient. C'est un renoncement à une espérance de coexistence. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est plus possible. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? J'en sais rien. Mais je crois que tant que le peuple juif n'aura pas le courage de dire quel est son droit, on n'avancera pas. Et je crois que le peuple juif est très handicapé. Parce qu'une grande majorité du peuple juif ne vit pas, selon sa propre définition, que cette terre est la sienne, il vit ailleurs. Alors il est tellement handicapé qu'il ne s'en sort pas. Et je vais vous dire, à mon sens, s'il y avait la paix réelle, telle qu'elle est prévue dans les prophéties messianiques, le problème des frontières, c'est un problème de découpage administratif provincial. Imaginez la paix réelle. Qu'est-ce que ça peut faire que le canton arabe passe par là ou le canton juif passe par là si les gens sont chez eux, chez les autres?
C'est une représentation en fonction du nombre.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un problème second. C'est pas un problème secondaire, c'est un problème second. Le problème des frontières n'est un problème sérieux que s'il y a la paix. Je ne sais pas si vous savez que pour le moment, nous n'avons aucune frontière légale. Nous n'avons que des non-frontières. Okay. Après, vous savez, quelles sont les conditions de l'honnêteté de l'hospitalité? Ça veut dire que l'étranger chez moi a droit aux lois de l'hospitalité. S'il se considère comme un étranger chez moi. Mais s'il se considère à l'envers, que c'est moi l'étranger, et que c'est lui qui est chez lui, c'est une autre situation. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pourquoi il ne faut pas confondre les concepts. C'est que, encore une fois, à l'échelle individuelle, il y a des comportements d'hospitalité à l'échelle individuelle entre juifs et arabes dans le pays dont vous n'avez aucune idée. Okay. Mais encore une fois, c'est à l'échelle collective qu'il n'y a pas d'issue.
Donc, de séparer le concept de souveraineté, de sainteté de la terre, de celui de souveraineté sur la terre.
Pour qui? Qui doit le séparer, les arabes ou les juifs? Oui, nous sommes entre nous, mais je veux dire, c'est un problème où nous ne sommes pas entre nous. Okay. Ils ne vont pas décider pour eux. À la rigueur, ça ne peut être que réciproque. Si c'est les deux à la fois, on pourrait y réfléchir. Et ça redeviendrait un problème de découpage administratif de cadastre. Pour le moment, c'est un découpage pas administratif de cadavre. Mais étant donné qu'ils considèrent que c'est leur terre sainte, et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Nous considérons que c'est la nôtre et que ça veut dire pour nous. Ça ne peut être que, ou bien c'est un auto-suicide, ça ne peut être que réciproque. Parce que, au nom de la sainteté de la terre pour eux, toutes les solutions politiques seraient refusées. Ce que je crains, c'est qu'on est arrivé au stade où il va falloir finir par oser dire la vérité. Okay? Et la vérité, c'est que ils pensent que c'est leur terre, nous pensons que c'est la nôtre. Et voilà pourquoi c'est bouché. Et alors, je crois que le peuple le plus en désarroi, c'est pas la nation arabe, c'est le peuple juif. Parce que la nation arabe n'a pas habité le pays pour dire que c'est le sien. Tandis que les juifs, c'est plus difficile. Et je dirais encore simplement une phrase. Moi, je ne vois pas de solution à vue humaine. Vous savez que je lis la Bible depuis que je la lis. À vue humaine, il n'y a pas de solution. Ou bien on admet que cette histoire est dirigée autrement que par les lois habituelles des hommes politiques, parce que tout est imprévu dans notre histoire depuis toujours. Ou bien on joue à écrire des éditoriaux, je ne sais pas comment dire. Et alors, la formule que je vais employer est très dure, parce qu'elle montre que c'est bouché. C'est-à-dire, ou les Arabes restent chez les Juifs ou s'en vont, ou les Juifs s'en vont et ils s'en iront pas. Alors, où est la solution? Est-ce que c'est clair ce que vous dites?
Expliquez-vous que ça arrive l'année Tisma.
L'année?
L'année Tisma. Vous allez dire l'année pour finir. Il n'y a pas un autre sens pour Chine même.
Écoutez, en français, quand on dit il y a de la joie, ça peut vouloir dire autre chose. Bon, je ne sais pas. Quête.
Sur la capacité d'espérance, le fait que les Israéliens n'ont pas eu le culot d'affirmer que la terre était leur dès le début, ce que même beaucoup de politiciens disent discrètement. Et puis, le point de départ de toute votre analyse aujourd'hui, ce que vous avez appelé là, au début, cette espèce de manque de confiance,
le fléchissement de la confiance.
Finalement, c'est très semblant. C'est-à-dire qu'en un sens, c'est une manière d'espérer dans les autres. Parce qu'au fond, c'est un petit peu ce que disait Adam tout à l'heure en parlant des ondes de Minkin. C'est que c'est un peu la même chose d'espérer dans les autres, du fait qu'on a du mal à admettre qu'on ait un tel droit, une telle responsabilité.
Oui, vous avez raison. C'est exactement le problème.
C'est imprévu dont vous parlez, c'est un petit peu comme les sans visage.
Absolument. Absolument, mais entre-temps, Ishmaël est né. Et il faut en tenir compte.
Mais Ishmaël, c'est une faiblesse de
Sarah. De Sarah, absolument.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Vous savez que.
On peut lire le texte de manière historique, mais on peut le lire aussi de manière radicalement. C'est pas comme le jeu d'échecs, c'est aussi radicalement dans l'instant.
Et je crois que les deux fonctionnent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Je crois la raison pour laquelle ce texte nous est donné en révélation. C'est pas pour que nous le lisions uniquement comme un récit historique, c'est pour que nous comprenions. C'est notre carte d'identité qui nous est révélée.
Le problème, c'est que c'est quand même difficile à croire.
C'est absolument difficile.
C'est l'histoire de l'Aïmouna.
Oui. C'est-à-dire, ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est précisément cela. C'est qu'une fois qu'on l'a lu, on ne peut pas ne pas l'avoir lu. Et c'est tellement énorme dans sa simplicité qu'on a le vertige. Et alors, on change de vocabulaire, on dit, bon, on y croit, on n'y croit pas, on n'y peut rien. C'est pas une question de croire ou pas croire, c'est comme ça. Okay. Est-ce que c'est clair?
La terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut.
Comment on oublie ça? Il n'y a pas écrit à qui il veut, il y a écrit à qui est droit à ses yeux.
La
chair yachar be'enav, à qui est droit à ses yeux, c'est pas un caprice.
Ce n'est pas simplement un problème de Emouna, c'est un problème de Chita, comme vous avez dit à un moment donné tout à l'heure. Mais s'il y a Emouna sans Chita, s'il n'y a pas une méthode...
Oui. Oui, ou pour me raccorder au vocabulaire de monsieur tout à l'heure, c'est un problème de Emouna en soi. La vraie question, c'est est-ce que je suis Israël? Alors c'est mon histoire.
Et la vraie question, c'est ai-je bien manige? Est-ce que je manie bien la Chita?
À un certain niveau, ça dépasse cela, parce que si je suis Israël, c'est ma chita qui me manie, si j'ose dire. Et Umeaïn Yabo Shita, comme dit le chant de Bialik. Shita, c'est la cassia aussi, d'où viendra la cassia. Mais je dirais que nous sommes peut-être arrivés à un stade où nous n'y pouvons plus rien, sinon être présent au rendez-vous. Les événements se sont déclenchés, je veux dire, depuis 48.
C'est ça, parce que c'est en 48, à ce moment-là, on aurait dû dire, ce qui passe à la terre d'Israël, c'est plus que ça, il revendiquer la terre.
Écoutez, il y a une différence entre Eretz Israël et Médinat Israël. Voilà. On appellera ce pays Eretz Israël quand ce sera tout Eretz Israël. Bon. Et pour le moment, il s'agit d'Eretz Israël. Parce que dans la pensée des Arabes, c'est jusqu'à la mer que ça se joue. C'est pas jusqu'au Jourdain ou jusqu'à Kalkilia ou à Kfar Saba. Okay, c'est évident. C'est tellement évident. Et c'est pourquoi je dis que. Je dirais, disons, que la seule stratégie cohérente, c'est de dire la vérité. Mais quand on dit la vérité, on entend la vérité. Si, vous savez, beaucoup d'hommes de gauche en Israël ont l'habitude de dire tout est.